Bien, donc merci à Emmanuel Giroud et son équipe de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Donc je suis ravi de pouvoir rencontrer un public qui change un peu de celui auquel je suis accoutumé. Et comme le titre de ma conférence l'indique, mais je vais y revenir, je vais entrer dans la question des violences féminines par celle que je connais le mieux, à savoir celle des femmes à Marseille au XVIIIe siècle, auquel j'ai consacré une thèse de doctorat. J'aurais pu aussi vous parler donc de l'essai que j'avais consacré de façon plus générale à la question de la violence des femmes sur le temps long, en grosso modo des femmes de la Bible et de l'Antiquité jusqu'aux femmes pédophiles aujourd'hui, donc un grand écart chronologique, mais qui avait en fait été un préalable méthodologique qui avait préfiguré la rédaction de ma thèse, parce que je voulais vérifier, avant de me lancer dans cette rédaction-là, que les phénomènes que j'observais pour le XVIIIe siècle étaient ou non spécifiques à cette époque. Et justement, j'ai pu avoir l'occasion de vérifier que absolument pas. Donc j'enseigne à l'université Jean Jaurès, je prépare essentiellement les futurs enseignants et je suis membre donc du Framespa à Toulouse et je fais partie d'ailleurs de l'équipe de recherche qui travaille sur l'histoire du genre notamment parmi les problématiques traitées. J'ai également beaucoup travaillé sur l'histoire du droit criminel d'Ancien Régime, donc ce sont des questions qui me sont, comment dirais-je, familières et qui m'intéressent au plus haut point. Et dans un instant, je le préciserai, j'ai décidé, un peu à l'effet d'un entonnoir, de partir du cas des violences en général pour, comme je vais essayer de vous le montrer, affiner à partir d'un exemple qui me semble assez archétypal, celui de l'infanticide, puisque c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, en général, on a tendance à associer féminité, criminalité et infanticide. Mais j'aurais pu choisir d'autres entrées pour questionner cette problématique de la violence des femmes, mais celle-ci m'a semblé pertinente. Alors, les travaux sur la violence des femmes, sur la femme criminelle, connaissent aujourd'hui un essor majeur et beaucoup de programmes de recherche se nouent un peu partout dans le monde et en Europe. Ici, rapidement, pour présenter les travaux donc, des collègues aux Pays-Bas, donc Manon van der Eijden, qui a lancé un programme de recherche qui s'appelle Crime and Gender, et qui est très intéressant puisque c'est une approche entre guillemets multiscalaire et en différents espaces de l'Europe pour questionner cette problématique des femmes et de la violence sur le temps long, essentiellement donc comme vous le voyez, de l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine. Et on attend tous impatiemment, bien évidemment, les collectes et les comparaisons de ces différents travaux qui permettront de mettre en perspective, me semble-t-il, des choses très intéressantes. Donc, ces travaux sur la criminalité féminine, au départ, ont essentiellement porté sur des formes de violence attendues. Les premiers travaux, si on remonte à Michelet notamment, s'est intéressé à la sorcellerie avec son ouvrage éponyme sur la sorcière. Beaucoup de travaux également sur des formes éparses de criminalité féminine, les délinquantes sexuelles, notamment dans le cadre de la prostitution, les affaires de vol, etc. Mais peu finalement de tentatives de synthèse de ces travaux-là, afin de les mettre en perspective. Ces travaux historiens ont été bien évidemment capitales et essentiels, mais ils ont néanmoins contribué à forger certains stéréotypes et idées reçues sur le lien que les femmes pouvaient entretenir à la criminalité et partant donc à la violence. Trop souvent encore, à mon goût d'ailleurs, le hiatus féminité-maternité contribue à biaiser les lectures possibles des femmes et de leur place au sein des sociétés. Nous y reviendrons. En 2010, les sociologues Colline Cardy et Geneviève Pruvot ont organisé un colloque sur justement la thématique des femmes violentes, qui a été publié depuis en 2012 aux Presses universitaires de Rennes, un colloque qui s'intitulait « Penser la violence des femmes ». Titre qui, me semble-t-il, est assez éclairant en fait, de cette impensée ou de cet objet ou ce sujet d'étude, comme vous le voudrez, qui, à mon sens, n'est pas encore suffisamment questionné. Ce colloque, pardon, s'inscrit dans la continuité d'autres travaux, initiés notamment en 1997 par l'historienne Arlette Farge et Cécile Dauphin. Mais à ce moment-là, donc au tournant des années 2000, finalement, la communauté féministe, dans laquelle j'englobe beaucoup de choses, était très réticente à cette question de la femme violente, parce qu'on estimait que réfléchir sur les femmes et la violence, c'était desservir en quelque sorte la cause des femmes. Mais comme on va essayer de le voir aujourd'hui, il me semble que c'est un contresens. Et les travaux et leur abondance qui aujourd'hui émergent dans les champs disciplinaires divers des sciences sociales attestent cet intérêt et de ce caractère extrêmement stimulant. Après tout, quitte à rechercher l'égalité des sexes, pourquoi ne le rechercherions-nous pas, pardon, aussi sur celui des violences, même si cela est polémique, je vous le concède. Différentes structures comme la CIEFAR, la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, contribuent aussi très largement à promouvoir les approches pluridisciplinaires sur la question des femmes. Et notamment, elles ont dirigé une série d'ouvrages intitulés La querelle des femmes, un débat intellectuel, philosophique, qui porte à peu près sur tous les domaines et qui est pourtant très peu connu du grand public. Alors qu'est-ce que c'est que cette querelle des femmes? C'est un débat qui a été amorcé par Christine de Pisan donc à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, dans laquelle en fait Christine de Pisan s'insurgeait contre le statut des femmes, jugé second, et ce statut inférieur était très largement imputable, selon Christine de Pisan, à la non-éducation de ces dernières. Alors, cette querelle des femmes a donné lieu à toute une publication d'une littérature ordurière, de part et d'autre d'ailleurs des partisans ou des opposants à la cause des femmes. Ce qui est assez drôle, c'est que bien évidemment, la plupart des textes les plus ordurier étaient écrits par des ecclésiastiques, les mieux placés pour parler des femmes notamment, bien sûr. Donc on peut imaginer qu'il y avait aussi un défouloir dans cette haine crasse qui s'exprimait sous la plume de différents auteurs, comme Jacques Olivier notamment, qui a écrit un abécédaire de l'imperfection des femmes. Dans le cadre donc d'un essai dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été publié en 2011, donc ça fait maintenant quelques années, je n'avais pas vraiment, comment dirais-je, souhaité apporter des réponses, mais plutôt poser des questions, en cherchant donc à réfléchir aux raisons possibles de ce processus d'invisibilisation des femmes dans le champ de certaines expressions de la violence. Encore en 2016, me semble-t-il, la question de ce rapport des femmes à la violence est source de réticence. D'autres projets, comme celui par exemple de Claire Carlin, pardon, une collègue de l'Université de Victoria qui travaille sur l'histoire du mariage, eh bien, en profite aussi pour questionner les rapports de genre, la question de la violence au sein des couples, avec notamment le fameux débat pour la culotte, qui est connu de tous, mais peut-être pas dans sa dimension entre guillemets idéologique. Et sous l'Ancien Régime notamment, on a toute une littérature accompagnée d'une iconographie qui véhicule cette mise en scène de l'inversion des genres et des pouvoirs. Donc on a des femmes qui battent leur mari. Bon, j'aurais pu d'ailleurs vous en reproduire quelques-unes parce que c'est très drôle, hein. Notamment, vous en avez une dans laquelle on voit la femme battre son mari et l'amant qui est planqué dans le lit en disant: Oh là là, ça va être mon tour. Et par analogie, vous avez un coq et une poule qui s'écharpent et une petite fille qui violente un petit garçon. Je trouve que cette image est extrêmement intéressante. La thèse que j'ai conduite, eh bien, m'a bien évidemment conduit à avoir une démarche prudente et rigoureuse. Parce que quand on se lance sur des thématiques de ce genre, ce n'est pas forcément évident, surtout quand on est un homme, eh bien, de traiter des femmes, même si ça peut sembler surprenant, eh bien, ce n'est pas forcément aussi naturel qu'on pourrait le penser. Alors, dans la thèse que j'ai conduite, je me suis intéressé aux stratégies, aux discours, aux récits, voire même aux tonalités, aux façons d'investir la justice que les femmes ont mis en œuvre pour eh bien, justifier les actions violentes dont elles étaient accusées, mais aussi voir comment, avec une sorte de résilience, elles ont été capables de s'adapter aux contraintes, entre guillemets, d'infériorité, puisque en justice, la femme était réputée comme mineure, mais concrètement, aux criminels, eh bien, ce n'était pas vraiment le cas. Ce qui a été intéressant de souligner, c'est justement ces formes de résilience dont les femmes ont toujours su faire usage pour s'adapter, pour composer et finalement exister. Certaines formes de violence au féminin ont été très bien étudiées. Donc, ici, je donne quelques exemples, notamment dans ce qui concerne les violences politiques pour la période révolutionnaire, donc Martine Lapier, Dominique Godinot ou Jacques Guillemot. Des historiens se sont également intéressés à l'implication des femmes dans les conflits militaires, et on pourrait évoquer notamment pour la période révolutionnaire le cas donc des femmes qui ont souhaité prendre les armes dans le cadre des troupes révolutionnaires pour s'opposer aux puissances coalisées. Mais dès 1793, on a estimé finalement que les femmes avaient mieux à faire. Et pour couper court à toute implication politique et participer à la violence de guerre, on a interdit notamment les clubs féminins pour finalement les museler. D'autres travaux, hein, notamment sur les violences sexuelles, qui sont portés cette fois-ci par des psychiatres dans la structure des CRIAV, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est une structure nationale qui eh bien, s'intéresse à toutes les formes de délinquance sexuelle. Et récemment, donc, un colloque auquel j'avais participé sur les agresseuses féminins, entre guillemets, eh bien, c'était attaché à montrer que la pédophilie, que les violences incestueuses ne s'expriment pas que du côté des hommes, mais bien au contraire, que finalement, les femmes, elles aussi, peuvent verser dans ce type de criminalité. Pour travailler sur la violence et les femmes, j'ai travaillé sur la sénéchaussée, pardon. Donc, sans vous gaver de détails peut-être inutiles, juste vous présenter rapidement la sénéchaussée, qui est un tribunal. Sous l'Ancien Régime, on a une hiérarchie judiciaire extrêmement précise, avec la très haute justice, celle des parlements, les justices inférieures, celle des maréchaussées et vigueries, et les sénéchaussées ou bailliages, tout dépend si on est dans le sud ou dans le nord de la France, qui, me semble-t-il, sont extrêmement intéressantes parce que tous les petits bobos du quotidien, les plus sévères comme les plus anodins, se règlent devant cette juridiction. Il y a un volant civil, il y a un volant criminel. Moi, je me suis intéressé à la partie criminelle de ce tribunal, parce que c'est dans ces archives, dans ces dossiers, dans ces procédures, que finalement cette violence des femmes s'exprime le mieux, quoique au civil aussi, puisque des affaires d'injures, y compris, enfin, même jugées bénignes, pouvaient trouver une écoute attentive au civil. Ces archives judiciaires sont extrêmement denses. Chez les historiens, on compare souvent ces archives à des océans archivistiques, et pour cause. Dans le cas de cette thèse, je me suis retrouvé à 13 000 procédures, mais que bien évidemment je n'ai pas pu toutes, enfin, que je n'ai pas pu traiter dans leur totalité, mais à partir desquelles 900 procédures dépouillées, j'ai pu faire émerger beaucoup de choses. Beaucoup d'historiens ont longtemps refusé de travailler sur ces archives en estimant que finalement il y avait trop d'efforts pour finalement peu de retours. Alors que c'est justement dans les détails, dans les interstices, dans les discours, dans les configurations de rencontres des sexes, dans les oppositions des femmes et de la société en général, que justement se construit ce XVIIIe siècle auquel je me suis intéressé. Alors, les violences au féminin que j'ai travaillées portent essentiellement sur cinq domaines: les violences verbales, les violences physiques, les violences contre les biens, les violences contre les mœurs, violences conjugales, adultères, rapts de séduction, mauvais traitements, et sur les violences extrêmes, infanticides, suicides, accidents mortels. Alors, je ne vais pas vous détailler toute ma thèse, mais vous donner peut-être le résultat principal. Eh bien, ma thèse a permis de montrer qu'au XVIIIe siècle, le principal bourreau de la femme n'est autre que la femme elle-même, puisque les violences de genre sont extrêmement réduites. 20% sur la totalité des affaires considérées. Alors bien évidemment, ces archives judiciaires ne permettent pas de restituer toute la complexité des rapports de ce XVIIIe siècle, mais en tout cas, en justice et aux criminels, eh bien, les violences de genre sont assez restreintes, je dirais. Donc, justement, j'ai tiré un ouvrage donc, de cette thèse en me centrant sur une partie de cette dernière et notamment sur la question des mœurs et de leur rapport au genre, donc, auquel je vous invite éventuellement à vous plonger si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'adultère, sur le rapt de séduction et sur les pratiques qui mettent en scène la sexualité. Donc, je vais aujourd'hui m'interroger spécifiquement sur le cas des infanticides et vous allez voir à la lecture en fait des procédures à partir de l'analyse que j'en propose, on peut faire dire des choses très intéressantes à ces procédures du XVIIIe siècle qui, à plus d'un titre, sont encore extrêmement modernes, non seulement pour les problèmes qu'elles posent aux femmes qui se retrouvent mères dans le cadre de l'égalité, mais aussi en soulignant que ce crime, trop souvent associé aux femmes, est un crime en fait qui se partage entre les sexes. S'interroger sur l'infanticide, c'est d'abord, me semble-t-il, chercher à se défaire des liens qui unissent féminité, maternité et violence. Alors pourquoi? Alors peut-être que je vais défriser certains d'entre vous en disant que pour moi, la maternité n'est rien d'autre qu'une option dans la vie d'une femme, ce n'est pas une obligation. Et par conséquence, une femme qui devient mère n'est pas tenue, biologiquement au nom de considérations essentialistes, d'assumer ses fonctions. Et donc, les violences qui s'expriment contre sa progéniture peuvent se lire dans ce sens. Alors, dans les représentations collectives, l'infanticide figure comme la violence féminine par excellence. Regardez récemment dans l'actualité l'affaire Courgeot des bébés congelés, les octuples infanticides qui ont été récemment mis en exergue par la presse, captent, fascinent et attirent irrémédiablement l'attention du grand public. Parce qu'une mère, entre guillemets, qui renie son devoir, une femme qui refuse d'assumer sa fonction, eh bien, est regardée, me semble-t-il, par la société de travail. Travers, peut-être même plus au-delà du crime, bien sûr, abject, qui consiste à supprimer la vie d'un enfant. Donc, quels fonds pour étudier les cas d'infanticide? Donc, les fonds criminels, une quarantaine de cas, et notamment les rapports des chirurgiens. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ces rapports des chirurgiens? Parce que, au moment de la découverte d'un cadavre, eh bien, ces agents assermentés par la sénéchaussée font une description très précise du cadavre de l'enfant. Mais bien évidemment, les savoirs techniques de l'époque sont beaucoup trop restreints pour pouvoir, à partir de ces constats, dresser un historique du décès. Et je vous l'ai dit tout de suite, jamais, jamais une femme n'a été appréhendée suite à la découverte d'un cadavre. Donc justement, pour contrecarrer ce problème-là, j'ai travaillé sur quelques cas au XIXe siècle pour lesquels, justement, des femmes ont été appréhendées. Et on verra que, justement, elles n'étaient pas les seules impliquées dans ce type de violence. Donc, les infanticides ont des caractéristiques assez spécifiques, puisque ce sont d'abord des crimes silencieux. Et au moment où, justement, Jean-Joachim de Bastide, pardon, lieutenant général criminel, se transpose sur les lieux de la découverte d'un corps, il nous dresse dans son procès-verbal la description du cadavre du dit enfant et procède à des auditions d'office et ensuite à une information. Alors, l'information, c'est la collecte des témoignages. Sans qu'il ait encore été possible de trouver aucune sorte de preuve contre les coupables et complices. Cependant, il est bien difficile que, ce jardin étant clos et fermé des murailles qui paroissent même assez élevées, on ait pu y porter cet enfant et le jeter dans le puits sans que personne s'en soit aperçu, en sorte qu'il semble vraisemblablement qu'il y a des gens qui en sont instruits et d'autant qu'il lui importe pour l'intérêt du roi et le public de ne rien omettre. Dans cette affaire, elle est assez révélatrice finalement du silence qui entoure cette affaire d'infanticide, parce que justement, on est dans le cas d'un enfant qui a été retrouvé dans un puits avec des murs hauts de 4 mètres de haut. Donc, à moins d'avoir, comment dirais-je, une mère ou un père doué en basketball, faire un panier dans le puits semble-t-il fort approximatif. Bon, à la lecture, pardon, du dossier, on se rend bien compte que c'est le maître qui a frayé avec la bonne et que, bien évidemment, des amours clandestines sont nés donc un enfant qui a hélas terminé au fond du puits. Pour éclairer davantage ces archives, donc les deux procès du 19e siècle dont je vous ai parlé il y a un instant. La dimension médico-légale que j'évoquais un instant m'a permis justement, à partir des apports de la science criminelle actuelle, a posteriori, d'évaluer le décès des enfants, les conditions de ce décès et surtout de faire un travail sur la psychologie des femmes infanticides. Comme je vais vous le montrer, en fonction du lieu où on découvre le cadavre, eh bien déjà, on peut interpréter un état d'esprit. On peut aussi donc statuer sur les éventuelles souffrances ou remords que les parents ont pu éprouver au moment de se défaire de leur enfant. Et ces éléments-là n'étaient absolument pas pris en considération par les enquêteurs du XVIIIe siècle, parce que ces questions-là, bien évidemment, n'apparaissaient pas comme évidentes. Donc, un travail sur les lieux des crimes, sur la façon dont les corps sont abandonnés également, nous permettra d'apprendre davantage sur ces formes de violence qui, vous le verrez, sont associées aux femmes, mais qui ne le sont pas vraiment. Et bien évidemment, ces apports scientifiques permettent vraiment de dépasser une lecture trop orientée de ce type de criminalité. Dans la grande ordonnance criminelle de 1670, qui régit entre guillemets la criminalité et sa punition sous l'Ancien Régime, on définit l'infanticide comme le nom que l'on donne aux homicides qui se commettent par les pères et mères envers leurs enfants. Donc, on voit bien à la lecture de cette définition que le droit positif n'impute en aucun cas la culpabilité de ce crime aux seules femmes. Chez d'autres auteurs, comme Beccaria notamment, ou François Vermeil, l'infanticide en revanche se trouve plutôt lié à la mère, parce qu'ils estiment qu'elle est responsable de la vie. Bon. En cas de naissance illégitime, en théorie, eh bien, les femmes se devaient de faire une déclaration de leur grossesse aux autorités. Et cette pratique est attestée depuis au moins le XIIIe siècle. Mais il faudra attendre un édit d'Henri II de 1556 pour que soit officiellement eh bien, organisée cette pratique qui consistait donc à venir trouver les autorités pour dire, eh bien voilà, je suis enceinte d'un enfant hors du cadre du mariage. Et ces mesures-là avaient pour vocation, en fait, justement, de prévenir les infanticides. Mais bien évidemment, peu finalement de femmes faisaient le choix de déclarer officiellement cette grossesse-là. Et lorsqu'elle le faisait, c'était souvent pour contraindre, eh bien, l'amant qui avait été indélicat, eh bien, d'assumer sa paternité. Pour pouvoir prouver un crime d'infanticide, eh bien, au XVIIIe siècle et sous l'Ancien Régime en général, toute une série de dispositions sont à envisager. Preuve qu'il n'est pas simple comment dirais-je, de pouvoir identifier ce crime, et surtout, cela montre la précaution des autorités. Pour qu'il y ait infanticide, il faut d'abord qu'il y ait preuve tant de la grossesse que de l'accouchement de la fille. Qu'elle n'ait déclaré dans aucun temps, ni cette grossesse, ni cet accouchement, à personne digne de foi. Que l'enfant dont elle s'est accouchée soit venu à temps. L'on veut dire qu'il soit trouvé avec des ongles et des cheveux, circonstances dont les chirurgiens sont tenus, suivant les mêmes arrêts. Que l'enfant ait été privé du baptême, qu'il ait été privé de la sépulture chrétienne, qu'enfin, il y avait preuve que cette fille a pu avoir connaissance de la peine qu'elle encourait en ne déclarant point sa grossesse et son accouchement. Donc, la justice, vous le voyez, différencie le résultat d'une fausse couche d'une tentative de supprimer son enfant. Les critères retenus sont certes discutables, mais il s'avère qu'avant le quatrième mois de grossesse, une femme est rarement inquiétée, sauf s'il est prouvé qu'elle a eu recours à des moyens abortifs pour perdre son enfant. Muyard de Vouglans, donc un criminaliste du XVIIIe siècle et qui n'est pas parmi les plus progressistes dans ses lois criminelles, souligne que depuis la création des hôpitaux destinés à recueillir les enfants abandonnés, les exemples de punition en la matière sont devenus rares. Car, je cite, il n'y avait sur la punition de ce crime d'autres règles que celles établies par la jurisprudence des arrêts. C'est-à-dire qu'en général, les juges aux criminels étaient souvent très démunis face à ce type de criminalité. En théorie, les sanctions prévues en cas d'infanticide étaient tout simplement, eh bien, la condamnation au fouet et au bannissement. Et les coupables de ce crime et leurs complices, très souvent les sages-femmes, étaient également assujettis à ce type de sanctions. Alors, cet infanticide, je vais peut-être passer des détails, pour justement vous donner maintenant des cas concrets. Au travers de l'exemple donc de la découverte d'un cadavre, celui effectué par Madeleine qui se rend au four pour pétrir son pain, et elle a entendu parler que l'on publiait un monitoire au sujet d'un enfant de naissance trouvé le long du Jarret. Alors le Jarret, c'est un cours d'eau marseillais qui depuis est comblé. Et on lui dit que l'enfant appartenait à une fille du quartier de la Rose qui avait été abusée par le fils du boucher du quartier. Mais du depuis, elle a reconnu que ce qu'on lui avait dit était une faussette, puisque la dite fille a été mariée avec le dit boucher, lequel avait actuellement l'enfant que la dite fille avait fait. Alors, très souvent, pour pouvoir essayer de faire parler ces morts silencieuses, eh bien, la justice, lorsqu'elle se retrouve dans l'impasse, va solliciter l'aide du curé. Dans le cas notamment de la pratique des monitoires, à la fin de son office, le curé demande à ses fidèles de venir le trouver pour lui faire part d'éventuelles informations qui permettraient à la justice d'élucider le crime. Alors, très concrètement, à Marseille, ça ne marche jamais. Les moniteurs sont publiés, mais personne ne vient trouver le curé pour lui dire « j'ai des informations à vous donner ». Bon. Cette collaboration finalement entre les fidèles et leurs prélats est infructueuse. Mais ceci n'est guère étonnant car au XVIIIe siècle, l'Église a beaucoup moins, je dirais, d'influence sur ses ouailles, avec notamment le phénomène que Michel Vauvel a étudié de déchristianisation qui s'exprime aussi dans la crainte de Dieu et finalement le refus d'aller voir le curé pour lui dire que nous sommes au courant de choses qui permettraient de solutionner l'affaire. L'analyse des infanticides que j'ai organisée se découpe en trois temps, complémentaires les uns des autres. Tout d'abord, j'ai étudié, comme je vous l'ai indiqué, pardon, les rapports des chirurgiens qui sont essentiels. En effet, les témoignages sont s'avérant très souvent peu probants. Les compétences médicales de ces agents du pouvoir constituent parfois la seule clé susceptible de mettre au jour la cause des morts, à défaut d'identifier la coupable du crime. Les chirurgiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas toujours en mesure de pouvoir justifier le décès, mais en tout cas, ils s'attachent à décrire minutieusement ce dernier. Pour justement identifier la cause des décès, voici celle qu'on peut mettre à jour à partir de ces rapports des chirurgiens. Les connaissances de médicales d'Ancien Régime sont restreintes, voire même limitées, mais on peut voir que dans 70% des cas, une hypothèse au sujet de la mort du nouveau-né est formulée, ce qui n'est quand même pas négligeable. En dépit de la décomposition rapide des corps qui ne facilite pas le travail des chirurgiens, il existe un réel effort chez ces derniers pour chercher à qualifier la mort. En règle générale, l'examen clinique des cadavres se limite à un examen visuel, travail certes attentif, mais qui ne permet pas toujours de vérifier avec précision la cause véritable du décès. Savoir et technique trouvent rapidement leurs limites. La méthode, si vous voulez, scientifique de l'époque, savamment appelée la dokimasie pulmonaire hydrostatique ordinaire, connue et appliquée depuis le XVIIe siècle, n'est jamais utilisée dans nos procédures. La dokimasie consistait en fait à immerger le cadavre pour vérifier s'il y avait présence d'eau ou non dans les poumons et savoir si l'enfant avait été assassiné ou s'il était mort naturellement. Comme je l'ai indiqué, la décomposition des nouveau-nés est beaucoup plus rapide que celle du corps d'un adulte, ce qui rend ardue la tâche des chirurgiens. Dans 26% des cas, l'altération avancée des tissus empêche de qualifier avec exactitude la cause du décès et parfois interdit même d'identifier le sexe du défunt. La vitesse de décomposition des tissus est tributaire du lieu où se trouve le corps, auquel nous allons nous intéresser dans un instant. Les chirurgiens font également état dans leur rapport de la couleur des corps qui relève du constat et non de l'indice capable de situer le moment du décès. La lividité, par exemple, lorsqu'elle est observée, ne fait pas l'objet de commentaires particuliers des chirurgiens. Or, on sait aujourd'hui qu'elle peut indiquer à quel moment le décès est arrivé. La lividité, j'y arrivais, pardon, résulte de l'arrêt de l'activité cardiaque et montre que la mort est survenue récemment. Mais ça, les chirurgiens du XVIIIe siècle ne le savaient pas. Les morts violentes, comme vous le voyez d'après ce tableau que je remets, représentent près de 40% des causes de décès connues. Il s'agit du crime de recèlement de grossesse. Le 9 mars 1746, à Saint-Jérôme, un quartier marseillais, près de la Bastide du Marquis de Cuges, fut découvert un corps. Il s'agit du corps d'une fille de naissance, trouvée morte au pied d'un arbre enveloppé d'un mauvais linge, ayant la tête nue, le visage livide, face vers le ciel. Elle porte un petit ruban de fil rouge de 4 pans longueur et 1 pouce de largeur, passé autour du col, avec 2 nœuds ordinaires dont l'empreinte se voit sur la gorge avec lequel cet enfant a été étranglé. Parmi elles, donc, ces causes violentes de décès, la strangulation, l'étouffement, la noyade et les violences physiques constituent les formes les plus usitées pour ôter la vie au nouveau-né. Les cris de l'enfant devant être étouffés avant que d'attirer l'attention, les solutions les plus expéditives, quoique les plus cruelles, étaient alors employées. Les causes des autres décès, notamment la mort par non-ligature du cordon ombilical ou les complications obstétriques plurielles, invitent à se demander s'il y avait ici l'intention clairement exprimée d'administrer la mort. On sait de nos jours que la mort par non-ligature du cordon est lente, le sang s'écoulant peu rapidement. Dans le cas des complications obstétriques, le problème ne se pose pas. En effet, dans 9,4% des dossiers examinés, les chirurgiens précisent que le corps est un fœtus. Il s'agit donc de fausse couche, l'âge moyen du fœtus étant d'environ 4 mois. Le tableau suivant donc rend compte, sur la base des données existantes, de l'âge supposé des corps retrouvés. On le voit, dans plus de 70% des cas, l'enfant découvert mort est arrivé à terme. En revanche, dans les cas de non-ligature du cordon ombilical, la véritable cause de la mort de l'enfant peut résider dans une non-connaissance de ce geste élémentaire qui a pu être omis ou méconnu dans l'état de nervosité et de panique probable dans lequel se trouvait la parturiente et peut-être sous la pression de son amant. Ce dernier point indique que les corps ne restent jamais longtemps dissimulés, cela est important, et qu'ils sont découverts assez rapidement. Ce qui nous conduit à prêter attention au lieu de l'abandon des corps qui témoigne fortement des intentions de l'infanticide et de son état d'esprit au moment non pas de la mort de l'enfant, mais de la prise de conscience de ce décès. L'ordonnance criminelle, que j'ai évoquée il y a un instant, est également particulièrement sensible à cet aspect que les légistes dénomment exposition de part. Définie comme étant le crime commis par des pères et des mères après l'accouchement qui exposent leur enfant, je cite, ou dans les rues, ou sur grand chemin, ou bien dans des lieux écartés. La motivation de ce geste ayant pour cause le désir de cacher, je cite, la honte de leur naissance, parce qu'ils ne seraient pas en état de les nourrir à cause de leur pauvreté. Alors, ce raccourci entre pauvreté, délinquance, criminalité, vous le voyez, s'exprime dès le XVIIIe siècle, et le marquis de Sade le premier s'en insurgeait, et aujourd'hui on pourrait s'interroger si tous les justiciables, en fonction de leur naissance et de leurs moyens, sont considérés de la même façon. On dira que oui, en théorie, on pourrait dire que non. Alors, les lieux de découverte des corps, vous le voyez, sont intéressants. Puisque on peut, à partir de ces derniers, mettre en évidence trois grands types de comportements de l'infanticide. Qu'il s'agisse de la découverte du corps, donc de la mort par un tiers, ou de la visite qu'en fait la justice, il existe une certaine ritualisation oscillant du formel à l'émotionnel. Ce jeu de réciprocité dans la rationalisation judiciaire et la subjectivisation populaire de la mort suscite des comportements variés. Le 30 avril 1749, donc, on découvre le cadavre d'un nouveau-né en plein milieu de la rue, dans un couffin, dans lequel on met d'habitude de la viande ou du poisson, je cite, enveloppé d'une toile grise de coton. Le corps étant déjà, je cite, tout pourri et plein de vers, la face toute défaite, le cerveau séparé du crâne, eh bien, on peut a posteriori dater le décès d'environ 15 jours. La première attitude est donc ici de ne pas dissimuler le corps de l'enfant, ce qui peut sembler paradoxal compte tenu des risques et des sanctions encourues par là où les responsables. À y regarder de plus près, la contradiction s'avère toutefois illusoire. Le désir de rendre public la mort de son enfant trahit la volonté d'impliquer l'entourage dans ce drame. La rue, dont le rôle et la fonction sociale ne sont plus à démontrer, est donc mise à contribution par l'infanticide dans ce cas précis. Acteur social et artère coronale de la sociabilité d'Ancien Régime, la rue est l'interlocutrice à la fois bruyante et muette, sans doute paradoxale, du crime. Muette parce qu'elle montre tout mais ne dit rien, suggère puisqu'elle n'affirme. Afin de comprendre ce qu'elle a à dire, il faut redoubler d'attention. Déposer le corps devant un magasin ou une maison est, me semble-t-il, révélateur d'une intention d'indiquer ou de désigner quelqu'un ou quelque chose. Si l'on considère notamment les cas des abandons devant les commerces, ne faudra-t-il pas s'interroger sur le sens attribué à ce geste ? L'infanticide, dès lors, ne désignerait plus la coupable, le coupable de sa grossesse et au-delà un refus d'assumer une paternité. Il s'agit d'une hypothèse, mais il paraît impensable d'imaginer qu'il n'y ait pas un message implicite qui devient manifeste si l'on s'intéresse à l'autre grand type de comportement vis-à-vis des nouveau-nés défunts. Le 13 février 1742, Jacques-François Durour, lieutenant criminel, est dépêché au cimetière de l'Hôtel-Dieu, où a été découvert, je cite, « le cadavre d'une fille de naissance, face tournée vers le ciel et ensanglantée ». Abandonner les corps dans les cimetières démontre, cette fois-ci, le désir de l'infanticide d'offrir une sépulture chrétienne à l'enfant ainsi délaissé. Les cimetières sont des lieux consacrés, déposer les corps dans de tels espaces trahit, à mon avis encore, une tentative de soustraire des limbes l'âme de l'enfant, la dimension spirituelle étant évidente. Dans l'une des procédures, le corps d'une nouveau-née est soigneusement emmailloté de blanc et porte, je cite, « un maillot de toile par-dessus avec un morceau de toile rayé grossière dans lequel était enveloppé le cadavre de cette fille ayant un cérite cousu à la dite toile rayée devant l'estomac contenant ces mots « Battistata est advocatum Maria Angela » et une médaille pareillement cousue qu'ils ont fait enlever et confier au greffier. Le corps de l'enfant est découvert cette fois-ci dans l'église de Saint-Ferréol à Marseille. Même au cœur du bâtiment sacré, l'infanticide a pris soin de placer son enfant au plus près de Dieu en le déposant près du bénitier, en ne manquant pas d'indiquer que sa fille avait reçu le sacrement du baptême. Il y a là, indubitablement, un autre état d'esprit. Il s'agit soit d'un abandon dont l'issue a été malheureuse, soit, cette fois-ci, d'un infanticide. Dans ce dernier cas se trouve exprimé non pas un quelconque désir de rendre public le crime, mais un rapport plus intime, le lien qui unit la mère à son enfant étant d'ordre spirituel. Le fait de savoir si la mort a été donnée volontairement ou non est relégué à un rôle subalterne. Qu'il s'agisse des inhumations spontanées dans les cimetières, ou comme ici de la preuve d'un baptême, il y a la volonté de sauver son enfant et de racheter son crime ou la mort accidentelle par un utile acte de piété. Les liens maternels sont restaurés sur le plan religieux et l'union de la mère et de son enfant perdure ainsi dans l'espoir de la miséricorde divine. Le troisième et grand type de comportement vis-à-vis de l'infanticide consiste dans une négation totale de l'acte criminel par la volonté de dissimuler et de faire disparaître, un comportement qui est avéré dans 38% des affaires étudiées. Si ce chiffre n'est pas négligeable, il permet néanmoins de relativiser l'ampleur du geste des infanticides. Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur un acte qui, aussi terrible qu'il puisse être, ne peut être jugé, à défaut de disposer des éléments permettant sa pleine compréhension. Mais ce qu'il convient de retenir, c'est la volonté de faire disparaître à jamais sa progéniture, qui n'est pas majoritaire. En revanche, c'est flagrant dans le cas des noyades, des blessures physiques, identifiées dans 20% des procès traités. Les puits, les ruisseaux, le port de Marseille sont donc des lieux privilégiés dans ce cas de figure. En effet, dans ce cas, prévaut l'idée de faire disparaître le corps grâce au courant de l'eau. L'abandon près des remparts participe du même souci. Si symboliquement les remparts désignent la limite entre la ville et la campagne, ils sont aussi des lieux interlopes de prostitution et de débauche. Les enfants trouvés morts près de ces enceintes sont sans doute ceux de prostituées ou des enfants que l'on voudrait faire passer pour tels. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une réappropriation des codes géographiques connus et partagés de tous. Il existe des lieux plus propices que d'autres à accueillir le crime et ses différentes manifestations. Si l'analyse des espaces où les corps sont abandonnés est importante, ne serait-ce que pour des raisons déjà vues, les procédures s'attachent également à décrire de quelle manière le corps a été retrouvé, afin d'en dégager un sens. Posture et vêture sont précisément décrites dans les procès-verbaux, et le tableau 4 traduit justement cet aspect des enquêtes. L'état de conservation des corps est particulièrement aléatoire, même s'il convient de souligner que ceux-ci sont découverts moins de 3 semaines après leur abandon. En effet, les corps dont la décomposition est la plus avancée ont été abandonnés dans un laps de temps compris entre le moment de l'accouchement et une dizaine de jours. Il est intéressant aussi de considérer leur posture. Dans les rapports des chirurgiens, il est parfois précisé que la face était tournée vers le ciel. Nous sommes là encore dans la dimension du simple constat exprimé par les chirurgiens. Sans doute y a-t-il aussi le refus du déni du geste de la part de l'infanticide, les corps étant rarement exposés nus. Cet aspect a attiré mon attention parce que les vêtements témoignent également de la précipitation et de la panique dont les infanticides ont pu faire la preuve. Le tableau suivant donc traduit ou formalise, si vous préférez, l'état vestimentaire dans lequel ont été découverts les nourrissons. Les rapports des chirurgiens s'intéressent à la façon dont les corps sont enveloppés. On constate et signale dans près de 25% des cas des linges ensanglantés. Et il est aussi possible d'entrevoir plus que les marques physiques liées à l'accouchement. L'étude attentive des linges indique que des objets relevant de la vie quotidienne et peu coûteux sont saisis pour envelopper les corps. La mention « mauvaise serpillière » souligne à cet égard la qualité médiocre du linge employé pour emmailloter l'enfant et permet également d'établir un lien entre la fonction première de la serpillière, qui est celle d'ôter le sale, et l'accouchement et l'enfant, qui sont tous deux assimilés à un objet d'immondice. En effet, dans deux de nos procédures, les corps sont découverts par des balayeurs de rue au milieu des immondices. Trouver ces enfants nus ou apprêtés de façon très grossière indique l'urgence de la situation, ainsi que la volonté de se débarrasser au plus vite des corps. Dans l'ensemble des dossiers étudiés, seuls 3 corps sont vêtus plus ou moins correctement d'une chemise et d'un bonnet. Convient-il d'y voir un temps d'hésitation ou de doute? Il n'est pas interdit de le supposer. Notons en outre que l'arme du crime n'est jamais retrouvée, étant donné les types de morts administrées. Toutefois, dans un seul cas examiné, un élément de l'habillement a servi à commettre le meurtre, et je l'avais évoqué tout à l'heure, lorsque on retrouve le cadavre étranglé avec son ruban. C'est la seule mention concrète tirée des fonds de la sénéchaussée de Marseille, permettant d'identifier à la fois la cause de la mort et l'objet qui l'a entraîné. Un dernier aspect mérite de retenir notre attention, celui du moment du geste. Existe-t-il une temporalité de l'infanticide? La saison par excellence de l'infanticide, au regard des procédures étudiées, est la période estivale, plus de 48% des cas recensés suivis par l'hiver. La traditionnelle justification des comportements anormaux repérés en période de travaux des champs ou de soudure semble plausible, mais doit être néanmoins, à mon avis, dépassée. Les heures de découverte des corps coïncident avec celles du rythme des activités professionnelles du quotidien. Sous l'Ancien Régime, une journée de travail commence très tôt, entre 5 et 6 heures du matin, pour se terminer à 20 heures environ, le reste de la journée consacrée au travail ne se prêtant pas aux découvertes macabres. Comme je l'ai indiqué en introduction, il n'y a jamais dans les procédures étudiées de coupables désignés. Il semble toutefois important d'essayer de confirmer les différentes idées avancées ici par l'analyse de 2 procédures du début du XIXe siècle. Si la justice et la législation ont fortement changé entre l'Ancien Régime et le Consulat, il demeure néanmoins une permanence évidente des comportements sociaux. C'est à ce moment qu'interviennent les 2 procédures envisagées dans une perspective à la fois comparative et complémentaire. Existe-t-il ou non une rupture dans la pratique de l'infanticide? L'intérêt sera prêté également au rôle de la sociabilité de voisinage face à l'infanticide entre l'Ancien Régime et le Consulat s'achevant. Les 2 procès que j'ai étudiés sont respectivement datés donc de septembre 1802 et d'avril 1804. L'intérêt a été principalement porté à ces 2 cas, et notamment parce qu'on dispose des interrogatoires. Étant donné que jusqu'ici, comme vous l'avez bien remarqué, la parole des intéressés qui, eh bien, faisait défaut. La première procédure est intentée contre Anne Vernoux, une cuisinière surnommée Nanette, sans domicile fixe. Âgée de 25 ans, Nanette est originaire de Nice et réside à Marseille, je cite, en qualité de cuisinière dans des maisons bourgeoises. On l'interroge. Quel malheur vous est-il arrivé? Dans le séjour que je fis, pardon, chez le sieur Cipierre, je m'occupais à toutes les affaires du ménage. Un jour, en remuant un lit dont je descendais la paillasse toutes les semaines, je me sentis une douleur très aiguë qui me vint aussi subitement qu'un coup de canon. Et là, je fis un enfant qui ne devait pas être de terme, qui était mort, puisqu'il ne fit aucune espèce de mouvement. Premier argument, et non des moindres, avancé par Nanette, la venue au monde de l'enfant mort. Dans l'autre procès, celui de Marguerite Pénon, la réponse est la même. Selon la législation, si l'enfant est mort-né, la procédure et le jugement n'ont rien à voir. Au contraire, s'il est prouvé que l'enfant était vivant en naissant, il s'agit alors d'un meurtre. La présumée naïveté qui est, dans un premier temps, mise à profit pour tenter de justifier son geste est trahie par l'argument de Nanette, qui connaît le discours à tenir en justice pour être jugée innocente. Vous saviez pourtant que vous étiez enceinte. Je savais que mes ordinaires m'avaient manqué et plusieurs mois. Je ressentais des douleurs rhumatismales, mais mon inexpérience ne m'avait pas permis d'en connaître la cause. Le deuxième argument employé pour justifier l'infanticide est celui de l'inexpérience. Interrogée sur ce qu'elle fit du corps de son enfant, elle précise, après l'accouchement, elle fut, je cite, d'abord dans un état de mort et sans aucune espèce de connaissance pendant un certain temps. Et que lorsqu'elle revint à elle, elle prit l'enfant, enveloppé dans toutes les saletés ordinaires. Bon, placenta, etc. Le mit dans son tablier et, je cite, alla le jeter dans la citerne de la maison, en spécifiant qu'il s'agissait d'une eau de laquelle nous ne buvions pas, attendu que nous avions une fontaine. Bon, elle était gentille, elle n'a pas voulu intoxiquer la flotte de la maison. Mais alors, se voit-elle rétorquer, comment se fait-il que vous ayez été assez mauvaise mère pour jeter votre enfant dans une citerne et le faire périr ainsi? Nanette répond que l'enfant sortit de ses entrailles mort. La question de la mort présumée de l'enfant à la naissance est au cœur des suspicions puisque l'issue du procès en dépend. Afin de vérifier que l'enfant était mort, le juge demande à Nanette quels moyens elle employait. Elle indique, je cite, qu'il ne faisait aucune espèce de mouvement, de plus il ne pleurait pas et que de surcroît il était tout noir. Elle ajoute qu'elle voulait que sa fausse couche fût secrète. Particulièrement méfiant, le juge poursuit son interrogatoire, préoccupé de savoir s'il ne s'agissait pas en réalité d'une suite, je cite, du système qu'elle avait combiné de ne laisser venir son accouchement à la connaissance de qui que ce fût. Et n'avait-elle pas d'ailleurs jeté son enfant dans la citerne du sieur Cipierre, car pour conserver si austèrement ce secret? Il lui était nécessaire de faire disparaître son enfant, soit qu'il fût vif, soit qu'il fût mort. Nanette avance que si l'enfant avait été vivant, elle l'aurait, je cite, porté chez une sage-femme à laquelle elle aurait demandé des conseils. Le juge réagit aussitôt en lui faisant remarquer qu'elle aurait pu solliciter l'aide de son maître, secours qui lui aurait été probablement accordé. Mais Nanette prétend qu'elle était chez des maîtres qui, par leur peu d'égard pour elle, pendant tout le temps de son service chez eux, lui avaient inspiré de la crainte et par ce motif, elle n'osait point leur demander du secours lorsqu'elle ressentit les douleurs de l'enfantement. Mais à l'instant, elle montait dans un appartement au second étage et à peine elle fut à remuer un lit qu'elle se sentit beaucoup plus pressée et accouchée d'un enfant qui était sans vie. On lui répond, dans la supposition que vous faites, pourquoi n'instruisez-vous toujours pas vos maîtres de votre accouchement? Ils auraient prévenu l'action que vous vous permettez de jeter dans la citerne de la maison votre enfant. Elle répond, craignant de vifs reproches de mes maîtres, des suites même fâcheuses d'une confidence, je crus pouvoir le jeter et sans faire aucun mal dans la susdite citerne, comme ayant perdu la vie avant d'en accoucher. On lui demande, mais des œuvres de qui étiez-vous enceinte? Je l'étais des œuvres du sieur Lavabre, au service duquel j'avais resté pendant 6 mois et auquel même je n'ai pu m'en plaindre, attendu son départ bientôt, après qu'il m'eût mis dans cet état. Dans la suite de l'interrogatoire, Nanette soutient avoir accouché d'une fille du terme de 6 mois. Or, le juge lui fait remarquer que sa fille était au terme de 9. Il ne croit pas l'accusée et soutient que l'enfant était en vie lors de l'accouchement, d'où la condamnation prononcée contre Nanette à 4 années d'enfermement et à 2 heures d'exposition au poteau sur la place publique d'Aix-en-Provence. L'affaire de Madeleine Pénon, qui est âgée de 22 ans, présente de grandes similitudes avec ce cas précédent, quoique l'issue s'annonce différente. Paysanne native de Gémenos, donc près de Marseille, Madeleine demeure à Jouques, au Nord-Aix. Après avoir commencé son récit sur la mort de son enfant lors de l'accouchement, elle précise qu'elle était seule, dans le parc du domaine, sous un arbre, aux alentours de minuit. Mais, dans un autre interrogatoire, elle revient sur sa déclaration et affirme que le père de l'enfant, un cultivateur du nom d'Honoré Pignol, était présent au moment de l'accouchement. Elle parvint à dissimuler sa grossesse à ses parents en prétextant un amas de sang dans le corps. Selon elle, son amant lui conseilla de s'en débarrasser au plus tôt et lui dit qu'il y a des puits, il y a des terres, fais comme tu pourras. Cependant, dans le deuxième interrogatoire, elle change de discours. Son projet et celui de son amoureux, comme elle l'appelle, était de gagner au bagne afin de pouvoir accoucher auprès d'une sage-femme. Mais pressé par l'arrivée imminente de l'enfant, il fut forcé de s'arrêter sous un arbre. Elle n'eut pas le temps de savoir quel était le sexe de l'enfant, car Honoré Pignol le saisit tout de suite pour le jeter dans un puits. Le juge lui demande pour quelle raison elle ne prévint pas ses parents, et elle lui répond qu'elle redoutait leur réaction. La question de la ligature du cordon ombilical, déjà relevée dans les procédures de la Sénéchaussée, est abordée par le juge qui interroge Madeleine. Elle répond qu'elle n'a point lié le cordon ombilical à cet enfant, ni personne le lui a lié, puisqu'elle était seule. À mesure qu'elle se sentit des douleurs, elle sortit de chez elle sans rien dire à personne. Son objet était de se rendre au bagne pour y accoucher secrètement. Toutefois, en conservant l'enfant, étant arrivée dans le parc, elle se sentit fortement pressée par des douleurs et ne pouvant aller plus loin, elle s'assit sous un arbre, fit son enfant. Et après l'avoir fait, elle le remuait à plusieurs reprises, voyant qu'il ne donnait aucun signe de vie, et étant elle-même hors de connaissance et ne sachant ce qu'elle faisait, elle le prit et le jeta dans un puits où il a été trouvé. Il était absolument mort quand elle l'a jeté dans ce puits. Si l'enfant avait survécu, elle aurait, je cite, fait porter à l'hôpital de Marseille et aurait ainsi évité l'inculpation de ce crime. La disparition donc du père, Honoré Pignol, d'après les faits survenus, entraîne sa condamnation par contumace et l'acquittement de Madeleine, puisque la fuite de l'amant ayant été perçue comme la marque de sa seule culpabilité. Ces deux procès viennent compléter quelque peu la parole directe qui fait défaut au procès criminel de la Sénéchaussée de Marseille entre 1750 et 1789. Ils ont eu le mérite de nous autoriser à dissocier l'exclusivité quasi péremptoire qui impute aux femmes le seul exercice de l'infanticide, qu'il s'agit de considérer comme une violence ne devant plus être perçue comme l'apanage exclusif des femmes. L'étude de ces procédures nous a permis de souligner également le décalage existant entre discours et pratiques judiciaires. Si l'appareil monarchique essaie de circonscrire les limites de la criminalité en matière de mœurs, malgré l'arsenal législatif existant, le choix de la sentence, de la sanction est confié à la sagacité et à l'arbitraire des juges. La vigilance induite par la loi pour l'établissement du crime montre la part laissée à la subjectivité. Comment rationaliser à la fois l'acte de donner la mort et la mort dans un même élan ? Tentative sans doute ardue. Cette difficulté est renforcée par la finalité de la procédure qui juge la mère et la femme dans un 18e qui attribue à la maternité une autre envergure. L'infanticide est un crime aux yeux de la société, tout comme il peut exprimer pour les femmes une façon d'affirmer la liberté de leur corps, quelles que soient les contraintes morales et physiques induites par un tel geste. Faire le procès des infanticides, ce n'est pas faire le procès des femmes, mais celui d'une liberté estimée intolérable à supporter. En donnant la mort, l'infanticide, par la liberté de l'acte exprimé, se place au-dessus de l'autorité morale et royale, surclassant les principes sur lesquels s'élabore la stabilité de la société. Si la mère est souveraine de son corps, elle n'est pas la seule à exercer son pouvoir de vie et de mort. En effet, la paternité refoulée est également importante dans l'infanticide. Refus de parentalité et crainte de la honte sociale, voilà ce qui figure au cœur du geste criminel. L'infanticide n'est nullement une violence propre à la femme, mais le mélange à la fois de l'honneur, des contraintes et des sentiments. La mort de l'enfant est davantage le fruit d'une pression sociale que celui du désir d'ôter la vie. C'est parce que la société ne conçoit pas l'enfantement hors du mariage que les morts ainsi dénoncées se sont produites. Aux explications de ces infanticides s'ajoute l'incapacité matérielle dans laquelle se trouvent certains couples qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins élémentaires d'un enfant. Cette incapacité peut se retrouver dans le cadre des couples mariés, déjà parents, qui suppriment un enfant qui viendrait alourdir la difficulté du quotidien. L'image de la mauvaise mère rattachée à l'infanticide doit donc être reconsidérée afin de réintroduire la part manquante du masculin. Loin d'être l'archétype de la violence féminine, l'infanticide doit être lu comme une violence sociale et en aucune façon comme le crime féminin par excellence. Et je vous remercie de votre attention.